Bonjour, merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle édition des carnets hebdomadaires. Bonjour à Roselyne,
bonjour.
Ma fidèle complice. Bonjour à Aïcha, merci d'être avec bonjour. Nous de l'autre côté. Et bonjour aux deux nouvelles, donc services civiques, qui sont à côté d'elles, qui prennent leur service, Joanne et Camille. Bonjour Joanne et Camille,
bonjour.
Et bon séjour à Radio Galère. Vous allez en apprendre de toutes les couleurs. Voilà. Bien, on commence. Alors, des petites nouvelles pour commencer. C'est d'aujourd'hui, et ça mérite qu'on s'y arrête, le fameux général Haftar. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est l'homme qui commande l'est de la Libye et qui a en partie le contrôle de l'activité pétrolière. Bon, il a déclaré, et c'est tout frais, et donc on y reviendra sûrement la semaine prochaine, que les tentatives d'arrangement politique entre le camp de Tripoli et le camp de Benghazi, le sien, n'avaient pas abouti. Il a dit ça n'a servi qu'à perdre du temps. On n'a pas avancé du tout. La reconstruction et la réunification de la Libye, ça commence maintenant. Et ça veut dire qu'il est arrivé en expliquant bien qu'il était armé, puissant et capable et décidé. Bon. Donc voilà, effectivement, ça tourne une page sur laquelle on a pu s'arrêter à l'occasion, disant que c'était bien joli les allées-venues pour savoir qui était d'accord avec qui on ne faisait pas venir, en particulier le fils de Muammar Kadhafi, etc. Tout ça orchestré par Madame l'ambassadeur des États-Unis à Tripoli, qui essayait de perdre du temps volontairement pour éviter. Alors, parce que ce qui inquiète, pas ces braves gens, c'est une expression parfaitement inadaptée, ce qui inquiète les États-Unis et la diplomatie occidentale, c'est que la Libye se reconstruise parce qu'elle a beaucoup de potentiel économique, en particulier pétrolier, mais pas que ça, et qu'elle est un endroit qui, pour la stabilité de l'Afrique, mériterait d'être stabilisé une bonne fois pour toutes, au lieu d'être livré à des guerres intestines alimentées par les uns et par les autres. Voilà. C'est ça la leçon. Et on avait compris qu'effectivement, la mission de Madame l'ambassadeur des États-Unis à Tripoli, c'était d'éviter qu'il y ait un accord national pour sortir la Libye de l'ornière. Ornière dans laquelle, je le rappelle, l'OTAN, France en tête, il faut bien le rappeler, a mis l'OTAN, la Libye, dans le fossé, en gros. Et ça ne va pas arrêter. Alors, à un prix très élevé pour les Libyens et un prix extraordinairement élevé aussi pour tous les migrants qui sont passés depuis donc 2011 par le territoire libyen. Une partie, mais pas tous, on le sait, est arrivée en Europe. D'autres ne sont pas arrivés et d'autres sont encore détenus dans des camps de regroupement. Bon. Donc, c'est cette horreur-là qui est en cause et c'est cette horreur-là qui nécessite qu'il y ait un gouvernement libyen et un pays souverain. On en est encore loin. Mais ce qu'a déclaré le général Haftar, c'était que maintenant, ça suffisait la comédie de dire « on négocie et puis on ne trouve jamais d'accord sur rien du tout ». Quand il y a une volonté de ne pas négocier, ce n'est pas la peine de s'asseoir autour de la table. Bon, c'est ça sa leçon. Haftar n'est pas un ange, je n'irai pas dire ça, mais il a au moins cette clarté de dire « j'ai des armes et maintenant, ça, la comédie a assez duré bon. ». On en reparlera. Je voulais dire un deuxième mot pour parler de l'Indonésie. Alors, vous savez qu'on a fait donc une émission mensuelle sur l'Indonésie, un dossier. Et puis, le sujet indonésien m'est revenu dans les oreilles ces derniers jours à propos des attentats de Bali. Alors, je ne sais pas si vous avez un souvenir, même vague, des attentats qui ont eu lieu il y a 20 ans, donc en 2002, à Bali. L'attentat qui avait eu lieu, alors je n'ai pas vérifié le détail de la réalité des faits, mais qui avait touché des discothèques où étaient là de nombreux touristes étrangers. Vous savez que Bali, c'est l'espèce d'endroit où tous les étrangers qui veulent avoir un petit parfum d'Asie s'agglomèrent, etc. Bon, il y a beaucoup d'Australiens parce qu'ils sont tout près, mais il y a beaucoup d'autres gens d'autres pays. Et donc, il y avait eu un attentat dans une discothèque, un attentat islamiste qui avait fait, quelque chose comme 200 morts. Donc, c'était gravissime, à la fois pour ceux qui ont laissé la vie, et c'était gravissime, y compris pour le gouvernement indonésien. Parce que ça donnait une image catastrophique de son pays. Et ça voulait dire que dans ce pays, et je me mets dans la tête du gouvernement indonésien, dans ce pays à majorité musulmane, des terroristes musulmans pouvaient se mettre à tuer des gens impunément, faire du terrorisme islamiste. Et donc, pour le gouvernement indonésien, il était tout à fait important de prendre des mesures pour que ça ne se reproduise pas. C'est-à-dire pour que, dans l'esprit du monde entier, si le monde entier s'intéresse à l'Indonésie, on ne dise pas « il y a 240 millions de musulmans, c'est tous des terroristes hein ». Vous savez que ce jeu d'équivalence est insupportable, mais il a cours, hélas, beaucoup trop souvent. Ça, c'était la toile de fond. C'est-à-dire que le gouvernement indonésien de l'époque s'est retrouvé face à cette réalité, c'est-à-dire d'un attentat très très grave, commis par des Indonésiens islamisés, donc terrorisants, soyons précis, et s'est retrouvé avec cette réalité. Alors il s'est passé, c'est en même temps un incident, et c'est intéressant de revenir dessus. Il s'est passé la chose suivante, c'était donc la commémoration de ces attentats, et donc il y avait des familles qui avaient perdu quelqu'un, qui venaient commémorer, se rappeler le souvenir du disparu, etc. Et en même temps, ce qui a fait réagir, et ce qui mérite d'être réfléchi, c'est que le gouvernement indonésien a dit « Nous avons pris des mesures à la suite de ces attentats. » D'abord, il n'y en a pas eu d'autres. D'autre part, le responsable de ces attentats qui a été attrapé est en prison. Il a déjà purgé 10 années de prison. Je ne sais pas combien a été sa peine. Et il a subi... Alors, écoutez bien, parce que ça renvoie à des situations qu'on aurait pu vivre en France et qu'on n'a pas vécues. Il a subi une politique et des travaux de ce qu'on appelle de déradicalisation. Vous savez qu'on en a beaucoup parlé après les attentats du Bataclan et tout. Là, le gouvernement indonésien dit qu'il a subi donc une action de déradicalisation et nous considérons aujourd'hui, au bout de 10 ans de prison, qu'il est sur la bonne voie. Et il n'est pas exclu, alors c'est peut-être ça qui a un peu fait de la peine aux parents des morts, il n'est pas exclu qu'à un moment donné, il soit libéré. Mais c'était donc une affirmation de ce gouvernement, à la tête de ce qu'on appelle le plus grand pays musulman du monde, qui disait « ce que nous faisons là, c'est nous ne voulons pas être considérés comme 200 millions de terroristes tuant des gens ». Et donc nous faisons ce que nous pouvons avec cette activité de déradicalisation pour éviter que ça se reproduise. Alors, aucun gouvernement peut dire c'est gagné, ça ne se reproduira plus jamais, mais qu'ils annoncent qu'ils font des efforts pour être, pas blanchis, mais pour être respectés en tant qu'Indonésiens et pas être critiqués en tant que terroristes islamistes, on ne peut que saluer ça. Et d'autres gouvernements pourraient faire la même chose. Alors, c'est un mot, je me souviens, qu'on a utilisé en France, la déradicalisation. Je ne sais pas du tout quelle en est la réalité concrète aujourd'hui dans les prisons, ici ou là. Est-ce qu'il y a des actions
de déradicalisation ? Oui, on en a un peu parlé.
Mais... Voilà. Peut-être pas à ce niveau-là.
Hein ? Non.
Donc, gardez cette idée que c'est possible et que donc l'équivalence musulman égale terroriste est une équivalence qu'il faut enlever de nos esprits, voilà, pour que la paix règne entre les hommes, si j'ose dire, enfin, au moins entre une partie des hommes. C'était ça que je voulais dire. Et je voulais dire un mot sur Haïti, c'est les petites nouvelles de début d'émission, parce qu'il se trouve qu'il y a des réactions aux États-Unis d'une partie de l'opinion, disons, progressiste pour faire simple, pour dire qu'il y en a assez que tous les immigrants haïtiens qui arrivent à la frontière, donc le lion du Rio Grande del Sud et le lion des barrières et des murailles qui ont été édifiées le long de la dite rivière, soient refoulés systématiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun accueil, aucune demande d'asile, aucune procédure pour les intégrer à la société des États-Unis. Alors dans le même temps où les États-Unis ont la haute main sur tout ce qui se passe à Haïti, y compris en y protégeant les dictateurs qu'ils maintiennent par la force et par l'argent et par la corruption, ils empêchent, ils jettent les Haïtiens à la mer. Et il y a des réactions aux États-Unis qui rappellent d'autres réactions qui ont eu lieu en Europe et en France en particulier là-dessus, en disant, par contre, quand c'est des Ukrainiens, les portes sont largement ouvertes, ils trouvent du travail, on les accueille, on les loge et tout. Quand c'est des Haïtiens, c'est donc pas le sel de la terre, c'est pire, c'est la honte de la terre, c'est la lie, c'est les Noirs qui ont osé se révolter contre les Blancs il y a 200 ans, qui ont donné un mauvais exemple très, très, très fâcheux, et donc, eux, on n'en veut pas. Allez, dehors, les Haïtiens. Alors je pourrais rester un peu plus longtemps sur la situation en Haïti, qui est dramatique, mais qui est dans ce climat-là, donc de maintien d'une tutelle extrêmement violente des grandes puissances occidentales sur un pays qui va à volo et où on ne laisse arriver, où l'Occident ne laisse arriver à la tête que des voyous. Mmh. Voilà. Donc tout est à refaire à Haïti, c'est un chemin énorme, avec des missions de l'ONU qui ont fait faillite, je rappelle l'histoire du choléra, enfin bon, je ne vais pas faire une émission sur Haïti, il faudra peut-être le faire un jour, mais la situation est très très grave pendant la période où je vous parle. Bien, et puis je vais vous parler donc un petit peu plus de ce qui s'est passé sur le pont de Kertch. Parce qu'il y a des précisions très très intéressantes et que vous ne verrez probablement pas à la télévision. Alors, je rappelle, le viaduc de Kertch, donc viaduc ouvert en 2018 qui relie la presqu'île de Crimée au territoire de la Russie, donc de l'autre côté de la mer d'Azov. Ce pont permet donc une liaison régulière entre la Crimée et le territoire de la Russie. Et jusqu'à la guerre actuelle, c'était le seul moyen pour la Russie d'accéder directement au territoire de Crimée, puisque tout le reste était en territoire ukrainien. Et qu'évidemment, on ne laissait pas passer les Russes, ni les camions russes, ni les trains russes. Donc c'était le seul passage. Donc vous rappelez ce qui s'est passé il y a de ça donc 15 jours, je crois, le samedi. Un train passe sur le viaduc et ce qu'on a vu, c'est deux wagons de ce train, qui était un train de carburant, qui prennent feu. Qu'est-ce qui a mis le feu? C'est un camion qui est sur la plateforme routière qui est juste en dessous de la voie ferrée, qui est un camion donc conduit par un kamikaze, donc qui est rempli d'explosifs. On a parlé de 16 tonnes d'explosifs et qui saute. Et ce qu'on a vu, c'est donc les deux wagons qui sont au-dessus du camion qui a explosé avec son kamikaze qui est mort dans l'explosion. Et ces deux wagons prennent feu. C'était des wagons de carburant. Alors, je ne sais pas si c'est du gasoil ou de l'essence, peu importe. Bon, ils prennent feu. Mais ce qu'on a appris, ce que j'ai appris récemment, parce qu'il y a des Russes qui se sont mis à parler, c'est que l'objectif de l'attentat était d'une toute autre envergure. Ces deux wagons faisaient partie d'un train de 4000 tonnes, c'est-à-dire une quarantaine de wagons, un train plein de carburant. C'est-à-dire que si la totalité du train avait explosé, les dégâts sur le viaduc auraient été beaucoup, beaucoup plus importants que ce qu'ils auraient été dans la réalité. Pourquoi ça a raté? Et c'est là que j'en reviens à effectivement, l'attentat le mieux préparé, car celui-là était préparé, parce qu'il fallait quand même faire arriver 16 tonnes d'explosifs, trouver un chauffeur kamikaze, trouver de le faire exploser exactement à l'heure de passage du train, ça supposait toute une série d'observations, de complicité, etc. Essayer de faire le maximum de dégâts dans cette conjecture-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est la petite touche humaine qui est décisive, c'est-à-dire que le train était conduit par deux cheminots, un chef de train et son adjoint. Et quand le camion a explosé, La locomotive était un petit peu en avant. Le chef de train a dit à son adjoint « Va décrocher la rame ». Et donc, il n'y a que deux wagons qui ont explosé. Tout le reste a été sauvé. Ça s'est peut-être joué en une minute, c'est-à-dire la réaction immédiate du chef de train qui dit « Ouh là là, je sais, il savait qu'il avait 4000 tonnes de carburant derrière. Il savait très très bien les dangers encourus et tout. » Qui dit tout de suite à son adjoint qui descend sur la voie et qui court pour décrocher les wagons.
Il aurait pu sauter.
Ah oui, à quelques secondes près, peut-être il sautait lui-même. Bon, et donc il arrive à décrocher le train et donc le train n'a pas sauté. Il n'y a que deux wagons qui ont sauté.
Voilà.
Alors, bravo les cheminots, on ne le dira pas. L'attentat a été prévu pour faire beaucoup, beaucoup plus de mal que ce qu'il a fait. Et donc, c'est cette intervention humaine qui a, en gros, sauvé la mise, puisque vous savez que le viaduc a été remis en service, la voie ferrée a repris du service le surlendemain, la voie routière est en cours de réparation, il y en avait une qui n'était pas abîmée, donc l'incident est clos. Mais il y avait un niveau de préparation extrêmement élevé pour faire une catastrophe. C'était ça le but de la manœuvre. Bon, elle n'a pas eu lieu. Coup de chapeau aux cheminots. Ça m'a fait penser à la bataille du rail de René Clément pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a chez les cheminots, c'est une profession qui veut ça, il y a une espèce de solidarité. Il y a chez les cheminots un sens du travail, du danger, du travail en commun, qui est très très fort, qui est cultivé par les directions un peu, par les organisations syndicales beaucoup, qui existe encore de nos jours, même si les effectifs ont diminué et même si les capacités syndicales sont plus faibles. Donc c'est vrai aussi en Russie, c'est pas surprenant. Et puis, le chemin de fer en Russie occupe une place très, très importante, on le sait. Bon, voilà ce que je voulais dire sur l'attentat de Kertch, qui n'est pas celui qui était prévu au programme. Et dernière chose par rapport à cet attentat de Kertch, qui est très, très intéressant, et je ferai référence après à une conférence de presse qu'a tenue Poutine, mais je vais en parler un peu plus longuement. On s'est demandé comment ce camion chargé d'explosifs, dont on sait probablement, l'explosif probablement a été fabriqué en Ukraine, chargé à Odessa, à destination d'un port bulgare, ensuite d'un port bulgare, je l'avais raconté, envoyé sur un port géorgien, du port géorgien passé en Arménie et de là en Russie. Bon. Tout ça, c'est le trajet qui a été identifié. On a reconnu les camions, les chauffeurs, etc., puisqu'il y a eu plusieurs changements de camions. Les papiers correspondant à ce voyage avec un document de transport. Enfin, quand un camion transporte du matériel, il y a des documents de transport. On sait qui l'a chargé, vers qui il va, qui est le client, qui est le... Bon, tout ça, on le sait. Bon, les documents ont été changés à longueur de temps. Hein, une première fois en Bulgarie, une deuxième fois en Géorgie, une troisième fois en Arménie. Enfin, c'était un travail d'orfèvre. C'est un travail de service secret de très haut niveau. Hein. Alors, peu importe que ce soit des Ukrainiens avec des Anglais, des Américains, bon, très haut niveau d'organisation. Ça ne fait pas de doute. La question qui se pose, et que Poutine a laissé poser en disant « Nous ne savons pas encore », il sait tout ça, il l'a dit, voilà, on sait en gros comment se sont déroulées les choses. « Nous ne savons pas si le bateau sur lequel l'explosif, les 16 tonnes d'explosifs, qui n'est pas rien, ce n'est pas un petit colis, hein, 16 tonnes d'explosifs, a embarqué à Odessa, est-ce que c'était un bateau de céréales destiné aux populations africaines affamées ou est-ce que c'était autre chose ?» Et là, il laisse un point d'interrogation. Il dit, je ne sais pas encore, nous ne savons pas encore, mais nous saurons. Parce que imaginez que si les 16 tonnes d'explosifs ont été cachées dans un bateau, soi-disant pour apporter du grain à des populations en souffrance et en train de mourir de faim, il y a un viol des accords passés pour l'exportation du grain ukrainien. Et il y a, j'ajoute, très probablement une complicité turque, parce que les Turcs s'étaient engagés à vérifier, à s'assurer que le chargement était bien conforme aux objectifs de l'accord, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait que de grains. Voilà. Mmh. Alors ça, il n'en dit pas plus, ça remonte à la fin de la semaine dernière, il dit « ça, nous ne savons pas encore ». Mais on imagine que s'ils arrivent à savoir, pas lui tout seul, mais les services secrets russes arrivent à savoir qui a trompé qui, si c'est les Ukrainiens, si c'est les Turcs, si les deux ont travaillé la main dans la main, ça aura des conséquences très très sévères. Parce qu'on ne joue pas à ce petit jeu-là qui aurait pu faire de très 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 gros dégâts impunément. Ça c'est la suite, on verra. Bien, c'est tout pour les petites nouvelles, je crois que j'en ai pas oublié. Une petite nouvelle africaine qui fait partie des annonces de la semaine dernière. L'Éthiopie et sa province du Tigré, en rébellion depuis plusieurs années, devraient, paraît-il, entamer des pourparlers pour cesser les hostilités, qui n'ont pas arrêté. Il y a eu plusieurs cessez-le-feu, puis ça n'a pas tenu, etc. Alors, je rappelle quand même, l'immense Éthiopie et ses 110 millions d'habitants est en but à une espèce de révolte, une espèce de sécession de la province du nord-est qui s'appelle le Tigré. Alors, rébellion qui s'explique en pratique, très concrètement, par des questions d'aspiration au pouvoir et au gouvernement, puisque les Tigréens, soit 5 millions sur 110 millions d'Éthiopiens, ont gouverné, et sans faire dans la dentelle, j'allais dire, ont gouverné l'Éthiopie pendant plus de 20 ans. Le fait qu'ils aient perdu le pouvoir au moment de l'arrivée de M. Abiy Ahmed à la présidence de la République ne leur a pas plu. Et donc, depuis, ils sont en sécession, en rébellion ouverte par rapport au gouvernement central d'Addis Abeba. Et ils sont en rébellion armée. Hein. Donc, on sait qu'il y a eu des accrochages. Depuis 2 ans, ça n'arrête pas. Mais il y aurait donc une proposition de l'Afrique du Sud d'accueillir dans un endroit que l'Afrique du Sud, très sagement, a tenu secret, et à une date qui est aussi, elle, tenue secrète, d'accueillir les deux parties pour essayer d'en sortir. Alors vous imaginez bien que c'est très très important, d'abord pour le calme de l'Afrique, et c'est très très important parce que derrière le Tigré, il y a des gens qui ne veulent pas que l'Afrique soit stable. Hein. J'ai parlé très clairement, je le dis, des États-Unis d'Amérique. Hein. Ça c'est donc une perspective intéressante et positive, c'est-à-dire que probablement du côté des États-Unis, on s'aperçoit que ça ne peut pas avancer, que la rébellion du Tigré n'a pas d'avenir, qu'elle est coincée géographiquement, qu'elle n'a pas d'accès à la mer, qu'elle est très très minoritaire dans l'Éthiopie, que le reste des Éthiopiens ne sont pas d'accord avec la position ex-dominatrice des Tigréens. Et donc on veut continuer à réunir l'Éthiopie sur un avenir qui peut être brillant. Je rappelle que les ressources de l'Éthiopie, les ressources agricoles en particulier, sa population, sont d'un très haut niveau. Et que donc l'Éthiopie a un avenir, elle peut avoir un avenir brillant. J'ajoute en plus que, comme l'Éthiopie, donc l'Éthiopie officielle, le gouvernement d'Addis Abeba, a d'excellentes relations avec la Chine, ceci suffit en général à expliquer l'hostilité des États-Unis à ce type de gouvernement. Et cette peur de bonnes relations, c'est des relations concrètes avec des chemins de fer, des constructions d'usines, des constructions d'installations de différents types. Bon, donc il y a une espèce d'amertume des États-Unis à se voir évincer du champ éthiopien par un monsieur, la Chine, qui investit. Et on a à nouveau cette espèce d'opposition qui est dramatique, mais qui ne peut pas durer très très longtemps, c'est-à-dire entre un pays puissant qui investit dans les infrastructures pour le bien des populations civiles et un pays qui ne sait qu'envoyer que des soldats et des parachutistes et des missiles. Effectivement, à choisir, le choix est vite fait, et il n'y a pas que les Éthiopiens qui le font. À ce propos, on va profiter de ce que Madame Nathalie Yamb, dont vous avez entendu parler récemment, on en a parlé à l'occasion de l'émission Parole de galère, Madame Nathalie Yamb, qui est donc cette citoyenne camerounaise qui a été exclue de son pays, qui s'est réfugiée en Suisse. Alors, elle a gardé la nationalité camerounaise, mais elle est persona non grata chez elle. Elle a été accueillie en Suisse. Et puis, elle s'est mise... Alors, Madame Nathalie Yamb, ce n'est pas une jeune militante effrénée, etc. Elle a 53 ans, je crois. Elle sait ce qu'elle dit. Elle a vécu ici et là. Elle s'exprime clairement. Elle est cultivée. Elle observe la situation internationale. Et elle s'est fait une spécialité de dire... tout crûment, ce qu'elle voit de la situation africaine et des relations des pays colonisateurs avec l'Afrique qu'elle aime, puisqu'elle est camerounaise, sur un blog où on la voit, donc Nathalie Yamb, vous connaissez, et elle intervient assez régulièrement, avec beaucoup d'humour, une grande culture politique. Et ça lui a valu, cet humour et cette grande culture politique, de recevoir, c'était la semaine dernière, une décision du gouvernement de la République française lui disant qu'elle était persona non grata, sur le territoire de la République française.
Interdiction de séjour.
De séjour, voilà. Donc elle peut pas venir, hein, c'est tout. On ne la veut pas. Alors pourquoi ? Parce que Mme Nathalie Yamb, elle a dit que le colonisateur, bon, on commençait à l'avoir bien vu en Afrique, qu'on n'en voyait pas les bénéfices, et que de toute façon, elle a bien expliqué ce qu'elle fait à longueur de temps, que les générations de jeunes Africains ne supportent pas d'être traités comme des descendants d'esclaves. Et donc ils le disent, ils le manifestent ici et là, au Mali, au Burkina, etc. Et donc elle n'est jamais que l'expression d'un sentiment populaire très très large par rapport à la néocolonisation de l'Afrique francophone en particulier, bien que ce ne soit pas son seul sujet d'intérêt. Et donc, elle vient de faire un petit texte que Roselyne va nous lire, disant que, voilà, elle est un peu fâchée, voilà, elle n'est pas surprise par la décision de la République française, mais elle explique sa position et on va l'écouter.
Mais surtout, donc, elle ne lâchera pas.
Voilà, exactement.
Quoi qu'il advienne. Donc, la panafricaniste croit que la lutte de libération engagée par Thomas Sankara continuera pour le bonheur du continent, berceau de l'humanité. Je sais qu'ils me tueront, mais ils n'arriveront pas à assassiner l'irrépressible envie de liberté et de justice qui anime la grande majorité des populations africaines. Le 15 octobre 1987, ils ont assassiné Thomas Sankara. Mais ils n'ont pas réussi à tuer les aspirations et les valeurs qu'il incarnait, écrit Nathalie Yamb récemment, le 17 octobre exactement. Le 15 octobre 2022, 35 ans plus tard, jour pour jour, ils annoncent au monde entier que je suis le plus grand danger de la planète pour les intérêts français. Une petite femme africaine de 1m63 qui ne dirige aucun État, ne possède aucune arme, aucune armée, aucun média, qu'ils ont eux-mêmes arraché à l'Afrique en me faisant arrêter puis expulser vers l'Europe, qu'on m'en arrêtait et jetait nos aïeux dans les cales des bateaux pour les envoyer en esclavage en Europe et dans les plantations. Mais je ne suis pas une esclave. Je ne suis l'esclave de personne, je ne l'ai jamais été. J'ai vécu, je vis et je vivrai en femme libre. Et je mourrai en femme libre. De la même façon que j'ai hérité des aspirations, des valeurs, des principes et du courage de Thomas Sankara, de Jerry Rawlings, de Ruben Omiyobe, de Jean-Jacques Dessalines, de la même façon, des milliers, des millions de personnes hériteront de cela quand ils me tueront. Bon début de semaine, les amis, a-t-elle ajouté. Voilà. C'est... Merci les réseaux sociaux pour le travail que beaucoup d'Africains, même illettrés, analphabètes,
écoute,
c'est important de le dire.
Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. C'est le biais de la vidéo et des YouTube, entre autres, est un biais qui permet effectivement à des gens qui ne sont pas allés à l'école de faire de la politique.
Voilà.
Et ça, il faut le saluer.
Absolument.
Il faut le saluer parce que ça change totalement les rapports de force sur le
Tout
terrain.
À fait.
Et elle n'est jamais qu'un porte-parole de ce sentiment très vif de « il y en a assez ». On ne supporte plus la néocolonisation, on ne supporte plus l'arrogance française. Et ce n'est pas parce qu'on a eu des ancêtres qui étaient esclaves qu'on va le rester. C'est tout. C'est très très simple, mais dit plusieurs fois, dit, elle fait une intervention quasiment toutes les semaines sur différents sujets, à force, comme c'est dit, avec conviction, avec talent. Il faut le dire, Nathalie Yam, je recommande, hein, on finit par dire qu'elle est porteuse. Effectivement, ce qu'elle dit, je ne fais que porter des aspirations collectives, des aspirations de masse, rien de plus. Je n'ai pas une banque derrière, je n'ai pas des hommes armés qui me gardent. Hein. S'ils veulent me tuer, ils me tueront, mais de toute façon, ils ne tueront pas les idées que je porte. Mm-hmm. Et ça, c'est un message d'une force extraordinaire. Et on est bien embarrassé à Paris avec ce genre d'objet, ce genre d'oiseau, j'allais dire. Parce que comment faire ? Parce que l'assassiner maintenant, après qu'elle ait dit ça, c'est minable. Hein, Macron se salirait les mains pour rien du tout, pas parce que quelqu'un d'autre viendrait à sa place. C'est comme dans la chanson de la Résistance. Hein, un soutien sort de l'âme, etc. Tout ça, c'est connu. Bon. Ce qui est cocasse en plus, c'est que l'arrêté d'interdiction date du mois de janvier. Et qu'en fait, depuis, il devait être là comme une poule qui a trouvé un couteau, ça j'en parle, je le publie pas et tout. Et alors, ils ont trouvé un biais qui est misérable, c'est dire, on l'a rendu public parce que comme ça, elle le sait. Parce qu'on tourne effectivement. Alors, ça veut dire que si on ne l'avait pas rendu public, elle ne le savait pas, elle se pointait à Roissy demain matin, et là, on la mettait en tôle.
Bon. Voilà. Et puis, je précise quand même que dans ce qui lui est reproché, par le ministère de l'Intérieur,
oui,
c'est
oui.
de fricoter avec les Russes.
Voilà, alors en plus, drame affreux.
Par rapport à l'histoire, voilà. à l'affaire des 46 pseudo-ivoiriens
voilà.
arrêtés au
voilà.
Mali.
Et les bonnes relations qu'elle entretient avec le gouvernement de la République centrafricaine, dont on sait qu'il a l'immense défaut, ce gouvernement de la République centrafricaine, de ne plus obéir à M. Macron, mais d'avoir de bonnes relations avec la Russie. Alors ça ne se pardonne pas. Et c'est le premier qui est parti très officiellement, il y en aura d'autres, là, le Mali, c'est quasiment fait. Ça va suivre. Hein. Ça va suivre.
Il le faut.
Voilà. Ce sera nécessaire. Bien. Alors, je regarde là, on va faire la petite coupure musicale. Mais oui, je vous expliquerai après d'où elle vient. Mm-hmm. Alors, vous savez que dans ce film, il y a une réplique inoubliable où on voit deux personnages. Il y en a un qui est debout et qui dit « Dans la vie, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont un flingue et il y a ceux qui creusent. » Et qui dit à l'autre « Toi, tu creuses. » Voilà. Ça, c'est la réplique inoubliable qu'il y a dans La Brute et le Truand. Et j'ai fait passer cette musique parce que j'ai trouvé sur le net une petite image inspiré, donc on voit aussi un personnage digne de Sergio Leone, qui dit, et ça fait référence à la situation actuelle dans le monde et à la coupure entre les États-Unis et la Russie, « Dans la vie, il y a ceux qui sanctionnent et ceux qui ont les matières premières. Les premiers ont perdu. » Il ne dit pas « vont perdre », il dit « les premiers ont perdu ». Voilà la leçon sous forme de Sergio Leone, matinée d'actualité. Hein, je la redis, dans la vie, il y a ceux qui sanctionnent et il y a ceux qui ont les matières premières. Les premiers ont perdu. Qu'on se le dise, ils doivent le savoir, mais ils ne veulent pas se le reconnaître. Alors, puisque j'en suis arrivé à parler des relations entre la Russie et les États-Unis, je vais m'arrêter sur des questions à la presse, des questions posées par la presse plutôt à Vladimir Poutine. C'était à Astana, c'était à la fin de la semaine dernière. Alors Astana, vous le savez, c'est la nouvelle capitale du Kazakhstan. Et il s'est tenu là une réunion d'un organisme dont j'ignorais en vérité l'existence. C'est une conférence pour l'interaction et la construction de la confiance dans l'Asie d'aujourd'hui. Alors en fait, ça c'est un organisme très un peu, on va dire, diplomatique et un peu peut-être fumeux à l'époque, qui a été créé au moment où l'URSS s'est démantelée. Et c'était pour dire à ceux qui voyaient l'URSS disparaître, mais on n'est pas fâchés, c'est une affaire intérieure, nous on a explosé, bon c'est comme ça, mais on va continuer à essayer d'avoir des relations de bon voisinage. Hein. Donc interaction et création de la confiance. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus l'URSS, plus le gouvernement central de l'Union, etc., qu'on va se fâcher avec les gens avec lesquels on avait des relations. Certains étaient même des partis de l'URSS, pas tous. Et donc, ça existait. Et cet organisme s'est réuni donc à Astana la semaine dernière, un peu pour reprendre une nouvelle vie. Et donc Poutine était là, il a dit « ben oui, ça a été créé il y a 30 années, on n'en a pas beaucoup servi, en même temps ça n'a rien fait de mal, hein, mais c'est au fond une idée qui a été gardée par un certain nombre de chefs d'État ». Et il ajoute « il est vrai que pendant ces 30 années-là, les pays qui sont membres de cette organisation ne se sont pas affrontés violemment, il n'y a pas eu de tension insupportable, personne n'a envahi les autres, personne n'a attaqué les autres, on est resté des voisins acceptables ». Et maintenant, il faut qu'on aille quand même un petit peu plus loin. Il faut intensifier les relations. Parce que vous savez qu'il y a par ailleurs toute une série d'autres institutions. Il y a l'organisation du marché commun eurasiatique, il y a l'organisation pour la sécurité collective en Europe, il y a l'organisation pour la sécurité de traité collectif. Enfin, il y a plusieurs organismes à vocation, à géométrie différente. Et là, c'est un espèce d'endroit où tout le monde, tous ces organismes et tous les membres de ces organismes peuvent se rassembler et se rencontrer. À telle enseigne que, par exemple, à l'occasion de cette rencontre où tous les chefs d'État étaient venus, c'était très, très intéressant. Et donc, Vladimir Poutine a passé un petit moment, j'allais dire au confessionnal, c'est pas tout à fait ça, mais presque, avec d'une part le président, le premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais, pour dire, enfin, il a dû leur dire, écoutez, arrêtez vos gamineries, arrêtez de vous tirer les uns sur les autres, il faut trouver une solution à vos problèmes qui sont compliqués, le problème de l'enclave du Karabakh, le problème de l'esclave, l'exclave, puisqu'il y a une exclave en Azerbaïdjan, etc. Tout ça, il faut qu'on en discute, mais arrêtez, on ne va pas se fâcher, vous n'allez pas surtout entamer une guerre pour ça. Deuxième entretien, deuxième confessionnal, j'allais dire, il a rencontré le président kirghize et le président du Tadjik en leur disant, en gros, tenant le même discours. Bon, il y a eu des accrochages frontaliers il y a quelques semaines, on s'est un peu tiré dessus entre gardes frontières, mais rien de dramatique, c'est pas la guerre, et donc il suffit de trouver un modus vivendi, un terrain pour discuter, négocier. Toujours la même politique. Bon. Ça, donc, c'est le premier point de cette rencontre et qui n'est pas sans intérêt. Ensuite, il a dû répondre à des questions. Alors, la majorité des questions viennent de journalistes russes qui étaient là, aussi bien TASS, les Izvestia, enfin tout ce qu'on connaît de la presse russe qui était là pour poser des questions, puisqu'ils avaient le président sous la main pendant un certain temps. Alors, il y a eu plusieurs questions intéressantes. La question intéressante concernant le recrutement des 200 000 nouveaux soldats pour l'armée russe. Alors il a dit effectivement, l'objectif c'était 300 000, on est aujourd'hui à 200 000. Ils ont commencé leur formation, alors une formation de base d'une semaine, après 15 jours sur le terrain, et après, au bout de ces trois semaines, ils passent dans une unité combattante où ils continuent à apprendre le métier. Et il a dit, alors que le journaliste posait une question un peu perfide, en disant, mais on dit qu'il y a des jeunes Russes qui sont partis au Kazakhstan pour ne pas être enrôlés. Il a dit, c'est bien possible, mais de toute façon, il y a des lois. Si c'est des désertions, ben on verra bien. Hein, les tribunaux feront leur boulot. Nous avons le personnel qu'il faut. Et il a précisé. Il a précisé ce qui répond un peu à des dépêches de presse qui ont été publiées en disant, de toute façon, nous n'étions pas assez nombreux. L'armée russe n'était pas assez... Et il explique ce qui était élémentaire. Vous savez, le front donc ukrainien-russe tout le long de la bataille de l'Est, c'était 1100 kilomètres. Et il dit effectivement, nous n'avions pas assez d'hommes, on ne pouvait pas avoir un soldat tous les 50 mètres, ce n'était pas possible. D'où la nécessité d'avoir plus de gens pour être en capacité, d'une part, de garantir notre frontière, et d'autre part, de pousser une avancée pour défendre telle ou telle population. Ça, c'est la deuxième chose qu'il a soulignée. Ensuite, il a parlé, c'était très intéressant aussi, une question sur la position de l'Allemagne. Alors, Poutine a un peu regretté, disons, le départ de Mme Merkel. Il a dit, bah, écoutez, pendant 17 ans, on a pu travailler avec elle, on pouvait discuter de nos intérêts communs parce qu'on en avait. Là, tout d'un coup, ça devient très, très difficile. Mais il dit, j'ai espoir que dans les profondeurs de la société allemande, il y ait une réaction parce qu'effectivement, les intérêts des deux pays sont très, très liés et la conduite du gouvernement actuel est très dommageable, beaucoup plus pour l'Allemagne, d'ailleurs, a-t-il ajouté, que pour nous. Donc, probablement, ils vont revenir là-dessus. Ensuite, il a répondu à une question. Alors, attendez, je regarde. Ah oui, alors ça, on rentre dans les suites de l'actualité. Est-ce que vous allez parler à M. Biden à Bali ? Alors, vous savez que dans trois semaines, il y a la réunion du G20 à Bali, donc sous la présidence indonésienne dont je parlais tout à l'heure. Et donc, tout le monde se met à s'exciter sur cette rencontre. Alors, d'une part, la Russie, et donc le Kremlin dit officiellement, le président Poutine est invité. Il verra s'il y va en fonction de l'évolution de la situation et tout. Ça se décidera au dernier moment et dans des conditions de sécurité maximale. Mais effectivement, il n'est pas prévu qu'il y ait une rencontre dans les coulisses entre M. Biden et M. Poutine si M. Poutine y va. En ajoutant que de toute façon, pour l'instant, les positions des États-Unis, je vais y revenir sur les questions nucléaires, ne sont pas telles qu'elles nécessitent une discussion de fond sérieuse. J'allais pas dire apaisé, mais bref, mais d'une discussion de fond sur la situation internationale. Ça, c'était pour la rencontre de Bali, qui aura peut-être lieu, qui aura peut-être pas lieu. Mais enfin, de toute façon, c'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est que le G20 tienne ses séances dans les conditions habituelles. Ce qui peut se passer dans les coulisses peut quelquefois se décider au dernier moment. On verra. Mais pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Alors, la seule chose qui peut jouer, c'est que d'ici là, d'ici la rencontre, le sommet du G20 à Bali, les États-Unis auront voté pour les élections du mi-mandat. Et donc, effectivement, le risque existe qu'il y ait un panorama, une situation politique un peu différente de celle d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout acquis. Pour l'instant, les sondages donnent autant de sénateurs républicains que de sénateurs démocrates, c'est-à-dire en gros un Sénat ingouvernable qui ne peut pas prendre de grandes décisions. Dans la Chambre des représentants, une petite majorité de démocrates, mais pas tellement importante. Et donc... On semble s'acheminer, mais ça je ne fais pas de pronostic personnel, mais beaucoup d'observateurs des États-Unis semblent s'acheminer vers la poursuite d'une situation de mauvaise gouvernabilité du Congrès des États-Unis par la présidence. On verra. Ça, c'est les électeurs qui le diront, enfin au moins ceux qui iront voter. Ensuite, alors il a été question, je l'ai signalé tout à l'heure, de l'attentat, donc le pont de Kerch, hein, savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et donc là, Poutine a dit voilà ce que nous savons, puis voilà ce que nous ne savons pas, ce qui met en cause, je vous l'ai dit, le cas de la Turquie en particulier. Et enfin, il y a une question qui est politiquement de très très grande importance. Il y a un journaliste, qui, je ne sais pas de quel journal, ça n'a pas beaucoup d'importance, qui a dit très crûment à Poutine... Est-ce que vous voulez détruire l'Ukraine ? Et la réponse a été « Mais évidemment non !» Évidemment non, on n'a jamais, voulu détruire l'Ukraine. L'Ukraine a un avenir. L'Ukraine, nous la combattons dans ses éléments fascistes, nazis, ça c'est clair, dans le fait qu'elle attaque nos populations, qu'elle attaque y compris des villes à l'intérieur de la Russie même, qu'elle a pendant 8 ans massacré les habitants du Donbass. On l'attaque pour ça et on attaque les gens qui ont mené cette politique. C'est pas, notre politique n'est pas de détruire l'Ukraine. L'Ukraine fait partie, c'est un pays de civilisation, c'est un pays avec lequel on a des rapports anciens et très intenses. Donc sa réponse est très claire. Certainly not, je le dis en anglais. Nous n'avons aucun objectif de détruire l'Ukraine. Ça permet de clarifier un certain nombre de débats. Et ces débats sont importants puisque ce qui est relancé, non pas par la Russie, mais par la Maison-Blanche et tout ce qui tourne autour, c'est la question de l'arme atomique. Alors la question de l'arme atomique, elle est très simple. C'est-à-dire que, alors que la Russie a simplement dit et redit, président, ministre des Affaires étrangères, encore la semaine dernière, l'ambassadeur de Russie à Washington a été interviewé par un quotidien américain où il a confirmé, non, nous avons une position sur l'utilisation de l'arme nucléaire qui est claire, qui est écrite dans tous nos documents stratégiques, qui a été approuvée par le Parlement, donc c'est tout à fait clair, et par le Conseil de sécurité nationale, nous n'utilisons l'arme nucléaire que pour nous défendre en cas d'attaque de notre territoire. C'est, alors, ou bien ils mentent, mais celui qui ne veut pas entendre ça le fait exprès. Ils l'ont dit sous toutes les formes possibles. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la réponse de la Russie ? C'est-à-dire, je réitère constamment ma position. Et en même temps, dans le camp d'en face, puisqu'il faut bien appeler ça le camp d'en face, on s'agite en disant, il va y avoir la guerre nucléaire, la Russie va utiliser l'arme atomique, etc. Alors, en oubliant le morceau de phrase, la Russie utilisera l'arme nucléaire si elle est attaquée sur son territoire avec des armes nucléaires, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et il vient à se greffer sur ce débat, qui n'est même pas un débat, puisqu'en fait c'est un refus du débat, puisque c'est dire, les Russes disent ça, mais on ne le croit pas. Et même si on n'a aucune preuve qu'ils mentent, mais on ne veut pas le croire, on a décidé de ne pas le croire, il est venu se greffer là-dessus un rappel à la période des missiles russes, soviétiques plutôt, à Cuba. On fêtait l'anniversaire 62, donc 2022, etc. C'était l'occasion de dire « Ouh là là !» Et ce jour-là, on est passé très très près de la guerre d'Ukraine. Alors, revenons et comparons les deux situations. Effectivement, quand en octobre 62, l'URSS menace de poser des fusées à tête nucléaire sur l'île de Cuba, superbe, j'ai le temps de tirer. ils sont à 300 km de la Floride. Et donc, on peut imaginer que du côté du Pentagone, on s'inquiète un petit peu, parce que c'est quand même culotté. Ils vont venir s'installer à 300 km de la Floride. Bon, un peu de panique. Un peu de panique, telle que c'est Kennedy qui va arracher la décision. Non, non, on ne riposte pas, on va discuter. Et je pense, alors ça, il n'y a pas que moi qui le dis, mais il est acquis que les faucons, comme on dit, les durs, qui voulaient absolument que ça se termine mal, ont éliminé Kennedy pour cette lâcheté. Ils ont considéré que Kennedy avait été lâche, avait peur. En fait, ce qui s'est passé quand même, c'est qu'il y a eu une négociation qui était très claire, puisque la Russie, l'URSS, Khrouchtchev a demandé très clairement, moi j'enlève mes missiles de Cuba, mais vous enlevez vos missiles qui sont en Turquie, à la frontière de l'URSS. Vos missiles, je les ai sous le nez tout le temps. Alors, imaginez-vous que ça peut m'inquiéter comme vous, ça vous inquiète. Donc on est quitte. Et effectivement, alors, ils ont un petit peu tardé à le faire, mais ils l'ont fait. C'est-à-dire que les États-Unis ont retiré les fusées Jupiter de Turquie à ce moment-là. Bon. Mais les deux situations n'ont rien à voir aujourd'hui. Celui qui a subi des menaces qui sont concrétisées par d'immenses manœuvres militaires de l'OTAN avec fusées nucléaires bien, bien en vue, c'est la Russie. Donc il y a inversion, ce n'est pas du tout la situation cubaine, c'est la Russie qui se sent menacée. Donc, et c'est elle qui dit, mais moi je ne me servirai que pour défendre mon territoire et rien de plus. Donc je voulais rappeler ça parce qu'on a une espèce de montée aux... Alors partout, Macron, tout le monde y va de la guerre nucléaire, même des militants de gauche, pacifistes, disent, ah oui mais on va avoir la guerre nucléaire. On aura la guerre nucléaire que si celui qui veut la faire l'a fait. Or, la Russie a dit très clairement qu'elle ne la ferait qu'en cas de riposte pour une attaque de son territoire. C'est parfaitement limpide. Donc, je mets de côté, enfin, je mets de côté ce discours sur l'arme nucléaire qui est destinée à terroriser les populations en disant « Mon Dieu, Poutine est fou », etc. Ce discours est un discours de pure propagande qui sert donc des objectifs de tétaniser les populations, qui permet de faire voter des budgets militaires en augmentation constante. Je rappelle quand même, il faut le dire, que le budget militaire des États-Unis, c'est plus que le budget des 14 autres puissances les plus armées du monde, hein, en étant le Japon, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et tout. Hein. Donc le budget des États-Unis, c'est la moitié du budget militaire mondial. Hein. Alors ne disons pas que c'est la Russie qui cherche la bagarre tout le temps. Hein. C'est pas ça la réalité. Donc ça a été dit assez clairement. Donc je pense qu'on y reviendra peut-être parce qu'il y a une espèce de frénésie de ce discours. C'est un discours, alors moi je parle même aux citoyens français, c'est un discours qui est destiné à nous tétaniser. C'est-à-dire on dit « Ah, on va prendre un champignon demain matin sur la figure, bon, rentrons dans notre trou, ne disons rien à personne, ne manifestons pas, n'exprimons aucune opinion, parce que de toute façon on va mourir demain matin ». Bon, ça c'est un très très mauvais conseil, c'est un conseil de dictateur. Hein, conseil de dictateur, je m'occupe de vous, restez tranquille, hein, ne faites rien, j'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en mes armes, hein, et restez sage. Même chose, hein, ne faites pas grève, on est le 18, ne faites pas grève, ne vous inquiétez pas des raffineries, je maîtrise. Moi, je mesure cette tétanisation de l'opinion à la quantité des messages, dire, faites ceci, alors je vais finir, il me reste combien de minutes, Aïcha ? 3, magnifique. Alors, c'est la grande nouvelle du jour. La République populaire de Chine a embauché 2 cadres commerciaux en France. Fabuleux ! Des cadres commerciaux de très haut niveau. Alors écoutez bien, écoutez bien. À la suite des annonces de M. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire sur le port du col roulé, vous avez tous vu ça ? Eh bien, les usines chinoises sont débordées par la demande. Les commandes de cols roulés ont augmenté, ont plus que doublé en un mois grâce à l'intervention géniale de ces deux VRP, les meilleurs VRP du monde, c'est Macron et Bruno Le Maire. Il faut monter le chiffre d'affaires des boîtes chinoises à un niveau jamais vu. Ça a doublé en un mois, fabuleux, 113% d'augmentation des commandes de cols roulés. Alors là, la boîte chinoise qui les a recrutés, chapeau, ils sont très très forts. Alors il y a autre chose parce qu'on continue dans le sujet, il n'y a pas que les cols roulés, toutes les doudounes. Alors depuis avril, parce qu'il y avait des Chinois qui disaient la guerre partie comme c'est, ça va durer. Donc, et puis l'histoire des sanctions, ils avaient compris. Donc toutes les usines qui font des doudounes, qui font des t-shirts en polaire, etc. Enfin, hein, tout ça déborde. Ils en sont envoyés plusieurs dizaines de trains par semaine de vêtements d'hiver en Europe. Alors c'est la grande politique, c'est un triomphe à la fois de Macron, de tous les vendeurs de catastrophes qui disent on va avoir froid, on va rentrer froid, et qui va en profiter ? L'industrie chinoise est en plein boom. Merci Monsieur Macron et Monsieur Le Maire, vous êtes des génies commerciaux, à défaut d'autre chose, on prend ce qu'on a, j'allais dire. Mais ça, c'était à noter, parce que ça ne sera pas dit, parce que c'est un peu honteux. Et alors, vous allez dire, après, nos diplomates en chef, c'est eux, paraît-il, ont essayé de dire, on va essayer de passer un coin entre la Chine et la Russie. Et là, je vois pas pourquoi la Chine se fâcherait pour la Russie, puisque c'est grâce à la guerre d'Ukraine qu'effectivement l'industrie chinoise du textile est en plein boom comme elle a jamais été et qu'elle inonde le marché mondial. Donc, au fait, c'est des intérêts bien compris et les Russes doivent le savoir tout. Alors, les Russes sont déjà équipés en habits pour le froid parce qu'eux, ils savent, ils ont l'habitude depuis longtemps. Mais là, l'industrie chinoise va au mieux. Donc, merci à nos deux grands VRP qui auront peut-être l'ordre de Mao Tse-kung, je ne sais pas un ordre commercial. Alors, on reparlera de cette brillante économie chinoise la semaine prochaine, puisque se déroule en ce moment le 20e congrès du Parti communiste chinois. Je le situe, presque 3000 délégués, 90 millions d'adhérents, donc le plus grand parti communiste du monde, ce qui n'est pas rien. Un travail très... Encore 3 minutes. Alors, oui, je vais... Voilà. Alors je vais donner quand même, parce qu'à cette occasion, donc, l'agence Chine Nouvelle, donc Xinhua, a publié un certain nombre de faits sur ce qui s'est passé pendant ces 10 dernières années sur le territoire de la République populaire. 10 dernières années, ça veut dire les deux premiers mandats de Xi Jinping à la tête du Parti communiste chinois, secrétaire général, et puis à la tête de la présidence et de la commission militaire centrale. Alors il cite un certain nombre de faits, je ne les cite pas toutes, mais pour donner l'idée, on n'a pas perdu notre temps. Par exemple, alors ça commence par ça, au sommet de l'Everest, une équipe de 5 alpinistes chinois est allée faire des communications en 5G. Et ça marche. C'est-à-dire, je vous signale au passage que le réseau 5G de la Chine, c'est le plus grand du monde, qui marche dans des conditions extrêmes, y compris au sommet de l'Everest, il n'y a aucun souci. Là, on est très bon. Autre fait, nous avons lancé donc une mission sur Mars, nous, la Chine parle collectivement, donc qui a permis donc d'aller sur Mars, de récolter donc des échantillons de la Terre martienne, de la géologie, et donc qu'on met ces connaissances à la disposition du monde entier, puisqu'on a été les premiers à faire ça. Alors, toute une série d'exemples, je vais en prendre quelques-uns pour bien faire comprendre. Nous avons sorti, dans cette décennie qui vient de s'écouler, 95 millions de la pauvreté en zone rurale. Un détail, vous allez dire, 95 millions, c'est rien à l'échelle d'un milliard 4, mais c'est quand même 95 millions qui, aujourd'hui, mangent à leur faim. Et ils agrémentent ça par une photo où on voit la cantine dans une petite ville de province où les enfants ont de quoi manger à midi à la cantine et le soir chez eux, etc. Qu'est-ce que nous avons fait encore ? La Chine a créé le premier laboratoire souterrain d'études. Alors, on étudie la matière noire, je parle aux physiciens et à l'astrophysique, à 2400 mètres sous terre. Donc, c'est le premier laboratoire à cette profondeur-là qui existe dans le monde et qui permet effectivement de se livrer à des travaux de recherche en astrophysique qui sont les plus pointus du monde. Ça, ils font ça aussi, parce que quand ils ont 5 minutes, ils s'occupent. Ça, on sait. Ensuite, Comment on travaille en Chine ? Comment on travaille en Chine ? Tout simplement, on travaille tous ensemble avec un plan. Alors ça, on a un plan parce qu'on décide que le pays va produire ceci ou cela. Donc il forme le personnel, il ouvre les installations pour les former, il ouvre les usines qui vont fabriquer telle chose. Tout ça, ce n'est pas seulement de l'initiative capitaliste où un monsieur qui a les dents très longues et un peu d'argent dit « je vais me remplir les poches en faisant ça ». Non, là, c'est un plan. Il est décidé de se développer en astrophysique, en aéronautique et tout. Et après, on oriente l'activité de l'appareil éducatif dans ce sens-là. C'est ça, la planification. Ceci étant, ils insistent, l'initiative individuelle existe encore. Il y a des millions de petites entreprises qui ont la liberté d'intervenir en tant qu'entreprise de marché. Mais les grandes structures et les grandes orientations stratégiques et technologiques sont prises au niveau de l'État. Et tout le monde s'y accueille. Voilà. Quoi dire de plus ? Non, puisqu'on arrive au bout.
Moi, j'aurais un petit... Vas-y. Je voudrais dire quelque chose, parce que c'est une nouvelle qui m'a plu cette semaine. J'ai vu qu'il y avait un protocole qui avait été signé, une alliance entre le BRICS et l'Afrique de l'Ouest.
Exact.
À Saint-Louis du Sénégal. Mmh. Et moi, je suis très contente de cette nouvelle. Voilà, je voulais le signaler.
BRICS, tout le monde sait, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Voilà. Donc l'alliance tout terrain plus l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc les organisations régionales se modifient et les changements de rapports internationaux se concrétisent et se modifient.
Dans la multipolarité.
Sous nos yeux. Voilà. Merci encore Aïcha. Bienvenue donc à nos deux services à la radio. Et on se retrouve mardi prochain à la même heure. Au revoir.